Radio Primitive. Engagé pour l'éducation populaire.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, normalement, ce soir, on devait faire des interviews téléphonées. On n'en fera qu'une tout à l'heure, vers 7h20, 7h30, de quelqu'un qui est en région parisienne. Par contre, on devait avoir quelqu'un à 19h de Brest. Et oui, c'était une première pour nous d'avoir quelqu'un de Brest qui est enseignant dans l'enseignement supérieur. Malheureusement, il est coincé dans une assemblée générale. Il faut peut-être mieux d'ailleurs qu'il soit coincé dans une assemblée générale. Ça prouve qu'il y a une assemblée générale déjà.
Déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on parlera quand même de ce qui s'est passé à Brest et d'une manière générale aussi en Bretagne, puisqu'on a quelques éléments là-dessus. On poursuivra notre cette espèce de tour de France des mobilisations et de comment ça se passe ici ou là, puisque c'est un des éléments les plus importants de ce mouvement, alors avec des guillemets.
Oui, parce que pour l'instant, on peut dire que ça se résume à des manifs, hein, ouais, en majorité. Mais des grosses manifs, ça c'est pour, clair. Ouais.
Mais pour commencer, donc je crois que c'est une grande première pour lui. On a Sylvain qui est avec nous. Sylvain, est-ce
non,
que
non,
tu
non,
es...
Non, ah non, on l'a pas. On l'aura à 7h20,
7h30. Ah zut, pardon, excuse-moi, j'ai pas lu le conducteur. Donc voilà. Alors oui, on va démarrer tout de suite sur la Bretagne. Alors on va aller au cœur du sujet. Alors des mobilisations très nombreuses, beaucoup de monde dans les rues, dans plein de localités bretonnes, avec une part non négligeable de salariés du privé, notamment de l'agroalimentaire, mais aussi une petite présence des pêcheurs, des hôpitaux, etc. Une tradition de mobilisation toujours forte, hein, dans cette partie de la France. D'abord parce que on l'a dit, et c'est un des vecteurs importants de cette mobilisation, le tissu social, la sociologie de la population, elle est extrêmement importante, hein. En région, les liens familiaux sont encore resserrés. Il y a pas mal de solidarité dans les familles. Donc on sait tout de suite à la fois la difficulté qu'il y a par rapport à l'emploi, d'une part, D'autre part, on sait l'impact qu'a le travail sur les corps et sur les vies des gens. Hein. On a les grands-parents, les parents qui sont là, donc la cellule familiale est assez resserrée. En termes de sociabilité aussi, la sociabilité ouvrière et la sociabilité au travail est quelque chose de très important. Donc on va dire que quand on se mobilise dans une entreprise, ben c'est plutôt mal vu de pas faire grève, en tous les cas de pas être dans la mobilisation, c'est plus resserré, les ensembles sont moins gros, et puis bien évidemment l'inflation et la situation sociale qu'on vit aujourd'hui, elle se ressent particulièrement dans les localités, puisque le coût de l'essence, le coût de la vie, etc. impacte plus durement dans les grandes villes, dans les campagnes que dans les grandes villes. Alors ça, les hypothèses aussi qu'on peut mettre, c'est est-ce que les liens qui ont été créés lors des mouvements des Gilets jaunes ont pu aussi servir à nouveau. Bon, ça, c'est encore assez difficile à dire.
C'est pas évident, ça.
C'est pas évident.
Quand tu regardes bien à Reims, mais aussi ailleurs, hein, les Gilets jaunes, c'est vraiment pas. Ils restent vraiment des noyaux, qui sont un peu, il me semble, un peu débordés par le nombre de gens qu'il peut y avoir. Et aussi par le fait que pour l'instant, il n'y a pas d'assemblée générale où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent, disons, faire en sorte qu'il y ait des actions organisées à partir de ces assemblées générales. Là, il n'y a rien. Tout au moins sur Reims, il n'y a rien. Mais il n'y a pas qu'à Reims. Hein. Dans beaucoup, beaucoup d'endroits, il n'y a absolument rien en dehors de ces manifestations qui sont décidées par l'intersyndicale nationale, qui, bien sûr, ça descend jusque dans les villes, mais c'est les responsables syndicaux qui décident de tout et surtout du parcours de la manifestation. Mais après, bien évidemment, il n'y a pas de lieu où véritablement il y a des assemblées générales. Ça doit exister quelque part. On a eu quelqu'un de Limoges qui nous a confirmé que c'était la même chose. Pour Boulogne, pour l'instant, c'est la même chose aussi. Il y a vraiment, ça a du mal à démarrer, ce mouvement.
Alors, la difficulté, c'est que c'est un mouvement dont la thématique principale est le travail. Donc, qui remet au centre du jeu social et politique la thématique du travail. À la fois parce qu'on parle de son allongement, mais aussi parce qu'on parle de son rapport au travail, qu'est-ce que ça veut dire bosser, comment on bosse, etc., etc. Et évidemment, cette question du travail qui était sortie du champ politique et des champs du mouvement sociaux, puisque les derniers mouvements sociaux qu'on pouvait avoir étaient soit, on va dire, sociétaux, entre guillemets, soit parlait du coût de la vie, mais ne posait pas la question du travail et donc de la paye, bien évidemment, dans cette centralité-là, les syndicats apparaissent comme étant des interlocuteurs, ou en tous les cas, des acteurs privilégiés. Même si, bien évidemment, ils ne représentent en rien l'ensemble des travailleurs de cette société, de ce pays. Donc on a ce paradoxe, en fait, où les travailleurs se retrouvent un peu face à eux-mêmes, avec la nécessité de se prendre en charge, et dans l'attente, en répondant au rendez-vous, de montrer à l'intersyndicale et aux syndicats qui répondent présents, qui sont au rendez-vous, et quelque part d'attendre que l'intersyndicale appuie sur l'accélérateur ou amplifie ou durcit le mouvement, mais pour le moment, ça ne vient pas. Et il n'y a pas encore cette possibilité ou cette envie ou cette capacité de se constituer soit à côté, pas contre, hein, mais à côté ou en dehors ou on va dire en parallèle, pour justement à la fois mettre le poids de sa force et de son ombre sur le mouvement et en même temps amener l'intersyndicale à un petit peu plus faire ce dont on a envie. Donc on a un double rapport de force, en fait. On a un rapport de force avec le gouvernement et un rapport de force avec l'intersyndicale. Et pour le moment, même si chacun et chacune en semble conscient, on n'a pas encore embrayé sur cette thématique-là.
Alors, il y a quand même un gros risque, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'on va se retrouver jeudi dans d'autres manifestations, jeudi 16, ça sera donc la cinquième manifestation qu'on aura. C'est pas évident du tout qu'elle soit aussi importante que celle d'avant, hein, ça peut vraiment baisser, puisque maintenant l'objectif serait le 7 mars. 7 mars, c'est dans 3 semaines, plus de 3 semaines, pour une grève générale de 24 heures. Faut pas le rêver, de 24 heures.
Alors c'est c'était 8, ouais.
Hein, ouais. Alors, c'est, 8, ça serait donc la journée
internationale des droits de la femme.
Des droits des femmes. Donc là, ça peut être, ça va se poursuivre, peut-être le 8, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si jamais il y a un 9, il ne se passera rien. Si, à mon avis, hein, je suis très pessimiste. Moi, par rapport aux grèves générales de 24 heures que j'ai connues dans les années 70, il y avait un très beau dessin où tu avais deux patrons qui fumaient le cigare et qui regardaient une manifestation syndicale importante dans la rue. Et l'un des patrons était affolé en disant « Punaise, t'as vu les milliers de gens qui sont là ? Ça craint pour nous. » Et l'autre lui disait « Mais non, demain ils reprennent le boulot. »
Eh oui, mais alors le deuxième problème, c'est que le calendrier législatif, lui, avance de manière imperturbable, puisque pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'ensemble des débats se termine le 17 février. Donc le vendredi 17 février, et la loi, le texte, quoi qu'il arrive, sera renvoyé à la Chambre haute, donc au Sénat, quoi qu'il se soit passé, hein, ouais. Que le texte ait été amendé ou pas, qu'il soit voté ou pas, etc., etc., et ensuite redescendra à l'Assemblée nationale pour une adoption définitive. Alors, on a là vraiment la nullité de la stratégie syndicale, hein, qui se calque sur l'agenda législatif en proposant donc une nouvelle journée d'action, fameuse journée d'action du 16, donc pour la fin de l'examen parlementaire, et du 7 pour la présentation de la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est sûr que si on le fait comme ça, ça risque d'être vraiment très 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 compliqué, parce qu'il va falloir instaurer un sacré rapport de force pour empêcher que cette loi soit adoptée, quoi. Bon, en plus...
Oui, enfin, je crois que c'était clair depuis le début. C'est-à-dire que pour effectivement faire flancher le pouvoir, il faut faire ce qui avait déjà été fait en 95. C'est-à-dire qu'effectivement, en 1995, effectivement, il y avait eu paralysie quasiment du pays grâce à la lutte des cheminots. Ensuite, il y a eu une autre victoire nommée, qui est une victoire des jeunes, en 2006, avec le CPE. Mais là aussi, il y avait eu vraiment une détermination importante qui a fait que le pouvoir a reculé. Il a reculé déjà deux fois. Par contre, on l'avait perdu en 2003, on l'avait perdu en 2010. Et là, à mon avis, on est mal parti. Mais peut-être que je suis pessimiste.
Oui, mais ça, c'est ton pessimisme habituel. Gardons le pessimisme pour des jours meilleurs. Mais ce qui est intéressant quand même par rapport à la semaine dernière... c'est qu'il y a une petite entrée de la jeunesse dans le jeu. Alors, évidemment, pas à Reims, hein, les Rémois vont dire « l'autre, il est arrivé ». Ça passe notamment par environ 200 lycées en France qui étaient touchés par des phénomènes de blocage ou de mobilisation, une quinzaine d'universités, notamment en Bretagne, avec l'université de Brest et l'université de Rennes.
Brest, d'après les informations que j'ai, moi, ça n'a pas duré longtemps.
Hein, non, justement.
La police est arrivée tout de
voilà.
suite.
Voilà. Hein. Cette première mobilisation, cette première entrée a été marquée notamment par une petite vague de répression, avec notamment la pénétration des forces de l'ordre sur les campus. Ce qui est incroyable, en vrai, enfin, c'est normalement les universités sont des franchises, donc les forces de l'ordre n'ont pas à rentrer. Et d'ailleurs,
si, à chaque fois, c'est le président qui demande.
Alors là, en l'occurrence, sur Brest, le président n'avait pas été informé.
Si, c'est le directeur de l'UFR qui n'avait pas été informé. Mais le président de l'université, comme d'ailleurs à Rennes, pareil, hein, comme d'ailleurs ailleurs, généralement, ces présidents assument totalement le fait d'être du côté des du pouvoir.
Alors, est-ce que ça va...
C'est des mandarins, ouais, ces gens-là.
Est-ce que ça va entraîner une réaction? C'est possible. Sur Rennes, on sait qu'il y a eu la tentative d'occupation d'un lieu à l'issue de la manifestation de samedi. En l'occurrence, le lieu où devait se dérouler le meeting contre la loi de la réforme des retraites, pardon, de la NUPES. Bon, bon gré mal gré, la NUPES a accepté de laisser la place aux occupants. C'était pas minable, hein. Il y avait quand même 200-250 personnes qui voulaient prendre ce lieu pour en faire au moins un lieu de discussion, si ce n'est un lieu de mobilisation. Évidemment, ils se sont fait virer assez rapidement. Ils n'ont pas tenu, la soirée. Alors la difficulté aussi, c'est que lorsqu'on mène des actions comme ça, il faut avoir un programme, non pas, faut avoir un objectif. C'est-à-dire, c'est pas occuper pour occuper et c'est pas bloquer pour bloquer. En l'occurrence, bloquer une université, c'est pas très compliqué. Il faut des bras, des tables et des chaises, mais ce n'est que pour l'action en soi, c'est pas très intéressant parce que à la fois on crame de l'énergie, mais en plus on perd du temps. Il vaut mieux, j'allais dire, une non-occupation ou un non-blocage, mais une organisation à l'intérieur des universités qui soit forte, crédible, réelle et qui corresponde à quelque chose. Il s'agit pas que de se faire plaisir. Bien sûr, ces paroles, elles peuvent apparaître comme étant celles d'un vieux con qui pourtant a bloqué à plusieurs reprises son université. Mais à chaque fois, c'était pas comment dire un blocage qui entraînait le mouvement. C'était le mouvement qui avait décidé qu'il y aurait un blocage pour pouvoir se libérer du temps. Donc c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est pas que se faire plaisir. C'est-à-dire participer à la construction de quelque chose. Et pour le coup, ça voudrait dire la même chose dans les dans les boîtes, quoi, dans les entreprises. C'est-à-dire que faire des taux de grévistes assez importants sur les journées d'action, c'est pas mal, c'est très bien même, mais ce serait plus intéressant de construire la grève dans la durée. Mais ça, s'il n'y a pas de temps de discussion collective pour que les gens qui sont en grève ou qui ont envie de se mettre en grève viennent dire de quoi ils ont besoin et comment ils escomptent pouvoir mobiliser leurs collègues de travail, c'est quand même très difficile. Et ça reste vraiment une difficulté parce que déjà d'une part, les lieux comme la maison des syndicats ou les bourses du travail ne sont pas ouvertes après les manifestations, ce qui est quand même vraiment de pire en pire. Et puis d'autre part, ça aussi c'est quelque chose qui a noté, il n'y a plus du tout de lieux collectifs ou de lieux dans lesquels on peut se réunir pour avoir la moindre salle. C'est véritablement une catastrophe. Alors, il y a peut-être un espoir et une possibilité, c'est de se laisser et d'avoir des prétextes pour pouvoir se réunir en dehors justement des moments de mobilisation qui nous sont proposés. Alors, on a quelques pistes ici, on verra bien, on aura certainement l'occasion de vous en reparler. Prendre un prétexte d'une projection, prendre un prétexte d'un moment pour pouvoir justement utiliser ce moment pour pouvoir s'organiser. Mais évidemment, s'il n'y a pas de volonté collective, c'est pas les activistes ou les militants qui peuvent créer ex nihilo, quoi. Bon, alors en plus, là, on est en période de vacances scolaires, donc pour ce qui va être de l'éducation nationale, bon, bah, ça sert pas à grand-chose, quoi. Est-ce que les gens vont répondre présent et est-ce qu'ils reprennent du souffle pour le 7 et le 8? Alors ça, c'est vraiment difficile. Ce qui est sûr, comme tu l'as dit, c'est qu'il y aura moins de monde le 16 février. ça paraît évident. 16, ouais, je dis. Et il peut y avoir un risque de découragement, quoi.
Alors, je vais peut-être maintenant essayer de joindre le copain de la région parisienne.
Ouais, alors on va faire une petite pause musicale et puis on va voir si ça fonctionne. Ok.
You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.
Comme annoncé, bah, nous avons un camarade de région parisienne, c'est un enseignant qui a d'ailleurs essayé de faire une grève reconductible.
Bon. Tout seul.
Salut Sylvain, bonjour, ça va ?
Bonjour Sylvain, bonsoir, très content de t'avoir, peut-être je crois que c'est la première fois à l'Égrégore.
Non, non, c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois.
Non.
D'accord. Sylvain, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Eh ben non, ça ne marche pas. Eh ben c'est pas grave, c'est un vent. Bon, donc Sylvain est à Mantes-la-Jolie. Tu l'as dit, hein, il travaille dans l'éducation nationale. Il est à noter que la ville de Mantes-la-Jolie et le département de résidence de Sylvain a connu de très grands mouvements à la fois lors du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des mobilisations locales très importantes dans l'éducation nationale il y a quelques années, avec normalement un mouvement des assistants d'éducation qui a été très suivi et qui a bien fonctionné. Alors, est-ce qu'à partir de ces diverses solidarités qui ont pu être composées, est-ce que Sylvain va pouvoir nous dire si ces thématiques ont été réactivées et si ces liens ont perduré ? D'autre part, il y a eu une tentative d'organisation, de coordination de l'éducation nationale avec d'autres secteurs, notamment les cheminots, et également l'énergie, savoir EDF, GDF, donc Enedis et GRDF pour être plus précis. Il y a donc en 2019 des mobilisations et des secteurs qui ont pu s'allier pour pouvoir défendre l'idée de la grève. Alors, est-ce que ces contacts et ces liens qui avaient eu lieu il y a 2-3 ans, mais encore de manière plus longtemps, il y a une dizaine d'années, ont été réactivés? Je ne sais pas, c'est ce que tu vas nous dire, Sylvain, si tu es là. Oui ?
Je suis là.
Chic. Alors, oui, on se demandait si tu étais déjà intervenu sur les Grégor. Oui ?
Oui, oui.
Ah, ben zut.
Oui. C'était au moment des Gilets jaunes, après ce qui s'était passé avec les lycéens de Mantes-la-Jolie.
D'accord. Donc, je disais en introduction et pour meubler que, justement, Mantes et sa région avaient connu ces dernières années des mouvements assez importants, notamment les Gilets jaunes, mais aussi l'éducation nationale, également EDF, GDF et les cheminots, et qu'il y avait eu des connexions qui avaient pu être faites lors de ces derniers, de ces mouvements. Est-ce que ces liens qui avaient pu être construits au cours des dernières années dans la lutte, est-ce qu'ils ont pu se réactiver lors de ces journées?
Alors là, dernièrement, pendant les journées, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que ces liens, ils se sont pas mal distendus. Ça a été très fort au moment de la dernière lutte contre la réforme des retraites en 2019-2020, où justement la présence forte de sections syndicales de l'éducation combative et des gilets jaunes du mouvement qui précédait juste immédiatement, ça avait permis de dynamiser vachement la lutte contre la précédente réforme des retraites. Et là, malheureusement, justement, on est plutôt sur un creux où, en fait, les copains gilets jaunes qu'on avait l'habitude de côtoyer, ils sont beaucoup moins là. Il y en a vraiment une poignée. L'énergie du mouvement des gilets jaunes, elle est aussi beaucoup moins là. Notamment, ça se retrouve l'absence de propositions d'assemblée générale qui soient pas dépendantes de l'intersyndicale. Donc, de ce côté-là, on est un petit peu sur un creux. C'est un petit peu dommage, on a beaucoup moins d'énergie qu'avant, je trouve. En revanche, par contre, je pense que dans l'idée et dans la combativité, il reste quand même quelque chose. Il y a quand même toujours une trace de dire, on n'a pas gagné, donc pourquoi est-ce qu'on rentrerait chez nous? Il y a ce truc-là toujours qui est là, d'ancrer la combativité dans la durée. Par contre, les liens, malheureusement, ils se sont distendus.
Comment tu l'expliques? Et si tu as une explication, et sinon, quelles sont tes hypothèses?
Autre. À part qu'un mouvement dans le temps, s'il n'arrive pas à se réinventer, à se renouveler, il crève. Je ne saurais pas dire. Je pense qu'il y a peut-être eu un échec de maintenir des structures aussi, les structures qui avaient été mises en place. Donc nous, chez nous, c'était l'assemblée de lutte du Mantois. Après les assemblées générales de Gilets jaunes, en gros, il y avait une fusion entre les assemblées générales de Gilets jaunes et les grévistes les plus combatifs du mouvement précédent, à savoir les cheminots et l'éducation nationale. Tout ça avait fusionné dans l'assemblée de lutte du Mantois. On n'a pas réussi à ce que les structures de l'Assemblée de lutte du Montois persistent. Il y a encore quelques discussions, encore des gens qui se voient et qui font des trucs ensemble, mais il n'y a pas vraiment de structure qui a permis de porter la lutte sur le plus long terme, ou au moins, pas forcément la lutte, mais au moins de la camaraderie. Mmh. Ça s'est un petit peu perdu. Il y a toujours des liens, mais c'est plus aussi fort que ce qui a pu être avant. Et donc, forcément, malheureusement, c'est ça qui explique, je pense, l'absence de dynamique de ce côté-là, quoi.
Dans le liminaire de l'émission, on proposait plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi ce mouvement qui n'en était pas un avait du mal à démarrer. On en avait une hypothèse qui était de dire il y a la centralité du travail et la question du travail qui entre en jeu, donc c'est quelque chose qui a été évacué depuis super longtemps dans les mouvements sociaux. La seconde, c'est aussi on a tellement l'habitude de fonctionner par l'intérieur de réseaux immatériels type réseaux dits sociaux ou s'organiser en dehors de la réalité matérielle, que quand il faut le faire en vrai, c'est comme si on avait oublié ou comme si on avait un peu dévitalisé et déshumanisé les mouvements sociaux, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse ?
Sur la question du travail, j'avoue que c'est possible que le travail soit vécu comme un truc assez... assez extérieur de plus en plus, quoi. Le lieu de travail avec la multiplication des statuts, avec le turnover hyper important, avec l'absence de solidarité concrète qui sont développées sur les lieux de travail, je pense que ça aide pas à ce que ce soit politisé ou que la combativité parte du travail. Ça, je pense que c'est clair. Et par rapport aux réseaux sociaux, j'ai l'impression que le confinement a pas mal tué une dynamique qui existait. En tout cas, si je parle pour localement, ce que je connais, on était encore en pleine mobilisation des retraites à Mantes le 11 mars, quoi. Le confinement, il me semble, c'était le 16 mars 2020, un truc comme ça. Donc, le 11 mars, on était en manif et on bloquait le rond-point principal de Mantes-la-Jolie et on brûlait un 49-3 en bois au milieu du rond-point, tu vois. Donc, ça a pété un truc, clairement. Et du coup, on est passé par le numérique pour essayer de maintenir le lien avec des visios, avec des trucs comme ça. Mais on avait plus ça avait plus le peps que ça avait pu avoir avant, les liens entre tous ces gens hyper différents dans des secteurs précaires qui étaient en même temps qui côtoyaient les secteurs les bastions syndicaux. Ces liens ils se sont clairement effrités, et du coup, pour poursuivre un peu peut-être l'hypothèse que vous faisiez, c'est que on se retrouve dans les manifs avec l'impression que tu as une collection de citoyens, de gens qui sont là pour juste exprimer individuellement leur avis, et que tu as une espèce d'agrégation de gens, mais qui forment pas une masse, qui forment pas un mouvement, qui forment juste une collection de gens qui disent non. Et on dit tous non, collés les uns aux autres, avec éventuellement une pancarte ou pas de pancarte, avec des slogans ou pas de slogans, mais en tout cas on forme une espèce de bloc de gens différents, séparés, qui disent tous non, mais on fait pas, il y a pas d'alchimie, il y a pas... Et ça se retrouve pas mal dans l'absence d'Assemblée Générale. Fait que tu te retrouves en manif, tu dis non en tant que citoyen, mais en fait, on s'en bat les steaks avec beaucoup de monde dans la rue qui disent non. Hein. C'est pas comme ça que ça marche.
À noter que l'absence d'Assemblée Générale, elle arrange aussi, évidemment, beaucoup ceux qui sont à la baguette de ce mouvement, quoi. C'est sûr que... quant à les maisons des syndicats qui sont pas ouvertes et les salles qui sont pas ouvertes, si on les fait pas nous-mêmes, les assemblées générales, c'est pas nos amis de l'intersyndicale qui vont nous y inviter, hein, ça c'est sûr.
Ouais, c'est clair. Ce que vous disiez sur l'absence de salles et d'ouverture des salles, on le retrouve vachement localement à Mantes. Hein. Déjà, la maison des syndicats est complètement excentrée par rapport au lieu où il y a les manifs. Donc, pour s'y retrouver, c'est hyper compliqué. C'est pas mal des unions locales qui sont assez hostiles à l'auto-organisation. Il n'y a vraiment pas de soutien. Je sais que c'est le cas dans la plupart des lieux, mais enfin là, ils sont particulièrement gratinés, donc on se retrouve très régulièrement en absence de, en absence de salle, on finit une manif, ben ouais, on n'a pas de salle, on n'a pas d'endroit où se retrouver, et puis laisse tomber la mairie, quoi. La mairie de Mantes-la-Jolie, c'est la mafia de Pierre Bédier. Je sais pas si vous avez entendu parler du Gus, mais c'est quand même quelque chose.
Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'était l'ancien secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, qui a lui-même été condamné. Hein. Mais,
bon. C'est ça, c'est lui, en personne. Ouais.
ça vous donne un peu le level, quoi, le niveau, quoi, comme dirait machin. Mais bon, pardon, je t'ai coupé la parole.
Non, mais j'étais arrivé au bout de mon histoire sur les salles.
D'accord. Bon, là, toi, tu es en vacances. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Pas encore.
Presque. Pardon, il me reste une semaine à tirer. Hein. Oui. Me fais pas miroiter un truc qui arrive pas avant vendredi.
Comment ça se passe dans le N ?
Eh ben, comment ça se passe dans le N ? Dans le N, bah, t'as effectivement la problématique des vacances qui fait que globalement l'énergie qui a pu y avoir elle est un petit peu moins là, même si on va pas se mentir, c'était pas non plus le feu. Dans mon collège, dans mon collège du Mantois, c'était assez jouissif, parce que on a été plus de 80% des enseignants en grève à la fois le 19 et le 31, que 100% des pions étaient en grève, qu'il y avait la loge aussi qui était en grève. Donc je te raconte pas la gueule de la chef d'établissement quand elle a constaté les dégâts le matin sur place. Elle a dû fermer le bahut. Donc ça, c'était bien jouissif. Par contre, on est parti en reconductible la semaine du 31 dans mon collège, et malheureusement on a fait des tournées dans les bahuts, on allait tracter devant les autres bahuts, on a essayé de reprendre le mouvement et personne nous a suivi, donc on s'est retrouvé un petit peu con, ce qui fait que ça s'est arrêté. Ce qui est dommage parce que il y avait de l'énergie localement. On était bien content de faire ça, on était content d'être tous ensemble dans la grève. On s'est posé en salle des personnels, c'était nous qui imposions le rythme, et c'était pas les discussions plan-plan sur les gosses et sur le jardin. Donc bon, on était quand même dans un truc assez cool, mais c'est pas parti. Donc voilà, localement, sinon du côté de Mantes, il y a pas mal d'écoles, notamment dans le Val-Fouré, qu'ont fermé. Des écoles pareilles, qui sont pas forcément des écoles où il y a grève très forte régulièrement qui étaient fermées. Donc c'est quand même bien suivi, mais ça se coordonne pas, quoi. Ça veut pas échanger malgré les perches qui sont tendues. Bon, on n'est pas aidé par les syndicats qui font absolument pas circuler l'info, mis à part Sud, mais c'est un truc chelou. C'est un peu la même chose que pour les manifs, je dirais. T'as beaucoup de gens qui protestent en disant non, en faisant grève, mais la détermination pour gagner, elle est pas là. La grève, c'est un acte citoyen. Tu fais grève comme tu votes, tu dis non, comme si ça allait suffire de dire non, en fait. Sauf qu'en face, on s'en fout qu'on dise non, quoi.
Est-ce que tu penses que ça pourrait pas être une répétition pour le 7 et le 8, si justement il y avait des bases qui avaient pu être posées, qui pourraient être intéressantes?
Écoute, j'espère, parce que franchement, sinon, ce serait trop déprimant. Du côté de mon collège, j'espère que le 7, le 8, on repartira en reconductible. On l'a fait une première fois. On sait qu'on a quelques collègues qui sont chauds pour le faire, qui ont expérimenté le truc, qui ont kiffé de se retrouver ensemble pendant une journée à foutre le sbeul. Donc je me dis qu'il y a moyen que ça reparte. Mais par contre, ouais, voilà, pareil, faut pas qu'on soit tout seul. Donc cette fois-ci, on va essayer d'anticiper un petit peu mieux, organiser une assemblée générale de bassin la veille, le 6, là, histoire de voir un petit peu sur qui on peut compter et ce qu'on peut faire. Mais bon, répétition générale, je veux bien. En fait, je me dis, si je compare à 2019, la grève du 5 décembre 2019, elle était préparée depuis septembre. Parce que c'est en fin septembre, il me semble, que la RATP, les syndicats de la RATP ont dit, nous, on part en reconductible. Donc, du coup, tu avais depuis septembre jusqu'à décembre pour te positionner, préparer ta caisse de grève, te préparer tout ça. Là, on a un peu le même délai, mais on sent qu'il y a quand même un petit peu moins de préparation, un petit peu moins d'anticipation. On n'a pas le même délai, on n'a pas de septembre à décembre, on a de mi-février à début mars. Donc je me dis peut-être qu'on pourrait fourbir nos armes, se préparer, remplir les caisses de grève d'ici là. Le truc, c'est que vu qu'il y a les vacances qui sont dedans, les liens ils sont un peu distendus. Je ne sais pas si ça va être, si ça va réussir à préparer quelque chose pour le 7-8 mars. Ce serait vraiment chouette, mais je ne sais pas si ça va réussir.
Est-ce que tu as des informations sur d'autres secteurs comme les transports en commun et la SNCF ?
Localement, on n'a plus trop de liens avec les cheminots, ça c'est vraiment la merde. On avait des réunions régulières, des AG régulières ensemble dans les précédents mouvements, on faisait des trucs avec les cheminots de Mantes. Récemment, on a plus de liens. Et donc, j'avoue, prendre la température du côté de la SNCF, c'est compliqué. Les endroits où je sais que ça a bougé, il y a les gaziers qui ont bougé à peine, à côté de Trappes. Ils ont tenté une reconductible, mais pareil, ils étaient tout seuls, ils se sont arrêtés. Les transports en commun, les lignes Île-de-France Mobilité, là, Keolis et compagnie, ils ont fait grève dans les mois qui précèdent pour des questions de salaire, un peu en même temps que les raffineries et compagnie, mais je sais pas si ça portera ses fruits pour la suite. Et sinon, t'as l'automobile. Il y a eu des grèves un petit peu plus importantes à Renault-Flins. Il y a UPS à Poissy qui a bougé un petit peu aussi, plus que d'habitude. Après, voilà, on bouge, on débraye pour la manif, et puis on rentre à la maison après, quoi. C'est pas de la... Il n'y a pas d'AG, il n'y a pas de coordination, donc c'est...
Ah, et puis surtout, il n'y a pas d'action qui sont décidées collectivement, quoi.
Ouais.
Tu as des contacts avec les parents de tes élèves ou des élèves en général? Comment a été perçu le fait que le collège soit fermé, et est-ce que tu as eu des retours de la part des parents, si tu as pu avoir des échanges?
Bah, malheureusement, le communiqué de presse qu'on a envoyé aux élus parents a pas rien donné. Ça fait un petit peu chier, parce que quand tu causes avec les parents, ils te disent bah ouais, on est aussi contre que vous. Enfin, je veux dire, dans le bahut où je suis, les parents, voilà, c'est pas des bourges, hein, donc la réforme, ils sont contre. Voilà, ça fait chier que les liens aient pas pu être faits. Écoute, on va essayer de recommencer la prochaine fois. Et puis après, les discussions avec les élèves, c'est avec des collégiens, donc c'est un petit peu plus compliqué de causer qu'avec des lycéens. Oui. Voilà, après, moi j'ai eu quelques discussions intéressantes avec des élèves au moment de la grève des raffineurs. C'était assez rigolo de discuter un petit peu de par rapport à leurs expériences qu'ils ont, eux, de leurs parents, de la grève, etc. Bah, tu t'aperçois que en discutant avec eux, ils comprennent assez vite que l'avenir qu'on leur promet, il est clairement pas rose, et qu'il va falloir qu'ils se battent. Donc quand ils voient que les autres se battent, ils disent bah ouais, hein, je comprends.
Je te faisais la remarque parce que je sais que dans le type de sociologie que tu as dans ton établissement, parfois on a des super belles alliances entre les sections FCPE locales ou les animateurs des FCPE locales, des parents d'élèves pour le coup, et justement les enseignants, et que c'est aussi un moyen de créer du lien et du moyen de s'organiser.
Ouais, c'est clair. Malheureusement, les sections FCPE dans le Mantois, elles ont été un petit peu laminées, et on se retrouve avec uniquement des associations de parents d'élèves locales qui s'intéressent que à ce qui se passe dans le bahut, okay, qui n'ont pas de vision politique, et c'est compliqué de construire quelque chose avec les parents, quoi. D'accord. Ils s'intéressent pas. Malheureusement, les élus parents, je devrais dire elles, hein, d'ailleurs, parce que c'est que des nanas, elles s'intéressent pas vraiment aux enjeux politiques, malheureusement.
Alors, si je reprends votre dossier et que je regarde l'affiche, je vois que vous êtes animateur syndical sud. Voilà.
C'est pire que les RG.
écoute, on fait ce qu'on peut, hein. On n'a pas les mêmes moyens, hein, puis on n'est même pas payé en plus. Donc, c'est un truc qui peut nous intéresser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Attention, grosse question. Dans le syndicalisme de l'enseignement en général, et comment ça se passe en fait concrètement dans le syndicalisme et quand on est organisé dans un syndicat et qu'on veut agir, en tous les cas participer à la création d'un mouvement. Comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? Bah, écoute. On a des sections dans les bahuts pour ce qui est du syndicat Sud Éduc des Yvelines, donc dans le 78. T'as des sections dans les bahuts qui sont plus ou moins peuplées. Hein. La plupart des sections, c'est des sections de 1, donc c'est pas des sections extrêmement développées non plus, on va pas se mentir. Globalement, c'est quoi les moyens que tu as quand tu es un syndicaliste? T'as le panneau d'affichage, t'affiches, t'as des heures d'information syndicale, t'en as une par mois, tu la déposes et puis tu te réunis avec les collègues sur le temps de travail pour causer. Tu poses des assemblées générales en dehors du temps de travail, tu tractes dans les casiers. Ça, c'est un peu la
routine. Ouais. Ça a été fait pas chez toi, mais à ta connaissance, dans différents établissements scolaires.
Ouais, ça a été fait. Globalement, les camarades de Sud Éduc, on ne peut pas dire qu'ils chôment. C'est clairement, on fait le taf. Ça, les camarades font le taf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là. Après. T'as un problème de plus en plus à ouvrir ta gueule en salle des personnels ou face à la direction quand t'es un syndicaliste sud, parce que dernièrement, vous êtes au courant de la répression qu'il y a eu dans l'éducation nationale. Mm-hmm. Dernièrement, globalement, les sudistes, ils sont moyennement appréciés par les chefs d'établissement et compagnie, donc quand tu gueules, t'as un petit peu du mal à oser ouvrir ta gueule, parce que sinon tu peux te faire un petit peu taper sur les doigts et puis te faire un peu pourrir la vie. Voilà, après, ce qui peut y avoir d'un petit peu plus excitant hein, quand t'es syndicaliste de l'éduc, c'est d'essayer de mettre en lien les bahuts, parce que du coup t'es mobile. Tu peux rentrer, t'as avec un mandat, tu peux rentrer facilement dans les bahuts pour aller diffuser des tracts localement, aller causer avec les collègues, aller transmettre l'info, dire qu'est-ce qui se passe dans le bahut d'à côté. Ça, c'est le truc un peu cool. Donc construire en fait des liens entre les différents bahuts en faisant des tournées régulières. Nous, globalement, avec la section de mon collège de Sud, on était 1 il y a 4 ans et maintenant on est 6 dans le bahut, donc ça a quand même pas la même gueule, c'est plutôt cool. Et l'impact qu'on voit, nous, c'est quand on passe régulièrement dans les mêmes bahuts pour diffuser de l'info, pour causer avec les collègues, pour construire un petit peu un discours syndical, un discours de solidarité de classe et compagnie, quand tu passes dans les bahuts, tu passes dans les bahuts, au bout d'un moment, tu es un interlocuteur, tu peux transmettre l'info et tu fais du lien comme ça, quoi. Globalement, je dirais que le truc le plus... dans la mesure des moyens syndicaux pour être droit dans ses bottes quand t'es syndicaliste et pas vendre ton âme au diable, globalement, c'est le truc le plus efficace. Tu passes dans les bahuts, tu causes avec les collègues, tu fais du lien, tu prends des adresses, tu fais suivre les infos.
Et est-ce que vous avez eu l'occasion, depuis le début du mouvement, de vous réunir à un échelon, si ce n'est local, au moins départemental, voire académique?
Alors, depuis le début du mouvement, on n'a pas eu d'assemblée générale à l'échelle du syndicat. Il y en a une qui est prévue après-demain, donc mercredi. Mercredi, on fait le point du coup sur la mobilisation locale dans le syndicat.
C'est tard.
Donc, c'est tard. C'est tard, je suis d'accord. C'est tard. Et puis sinon, on a essayé d'appeler à une assemblée générale de bassin. Assemblée générale
c'est-à-dire ce que tu peux appeler une assemblée générale de bassin.
Non, c'est pas ce que tu penses, coquin.
D'accord. Bon, je t'en prie, continue.
C'est le bassin du Mantois, quoi, tu vois. Et malheureusement, on a fait cette assemblée générale. Cette assemblée générale de bassin, on s'est retrouvé à 14, dont 10 de Sud-Éduc. Donc si tu veux, on était un petit peu à la ramasse, quoi. Ça suit pas, quoi. Quand je disais tout à l'heure que ça se coordonne pas, voilà, on en est là. Donc t'as un bassin d'habitation de 100 000 habitants avec une dizaine ou une quinzaine de collèges, 4 lycées, 5 lycées, et puis je sais pas combien d'écoles, et tu te retrouves à 14, quoi. Donc c'est ça le délire.
Bon, on va peut-être arrêter là pour le pessimisme, parce qu'effectivement, ça traduit la réalité, une certaine réalité qui peut changer. Hein. On a connu des mouvements qui étaient comme ça au début, très très... flottant, et puis finalement ça s'est développé, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer. Hein, donc on va peut-être se quitter là, à moins que tu aies des choses à rajouter.
Bah écoute, ce que je voulais dire par rapport aux grèves, à la différence au mouvement précédent avec les Gilets jaunes, j'ai pu le dire. Sinon non, ben, peut-être sur le syndicalisme, pour compléter un tout petit peu, le souci c'est qu'on a du mal à animer de syndicalisme interprofessionnel, donc essayer de causer avec d'autres secteurs, comme je le disais tout à l'heure avec le rail, quoi, avec Sudrail par exemple. Ce qui fait que même pour avoir les infos de où il y a grève chez les copains, quoi, où il y a grève dans la santé, où il y a grève dans l'industrie, tout ça, bah on galère, quoi. Donc je trouve que il y a, ouais, du côté du syndicalisme, ça boite un peu. Et ce qui pourrait être fait même à l'échelle de base du syndicat, quoi, entre simples adhérents. Même ça, on a du mal à le mettre en place, et je trouve que c'est dommage. Et ça contraste avec d'autres trucs qui sont un petit peu plus réjouissants quand même, parce que là, c'était un petit peu pessimiste tout ce que j'ai dit, mais je voudrais quand même finir peut-être sur une note un peu joyeuse. C'est que on a quand même réussi à animer une manif tous les samedis à Mantes-la-Jolie, dans le centre-ville, dans le marché, pour aller tracter avec les gens. Depuis le début du mouvement, donc le premier jour de grève c'était le 19, le samedi 21 on était en manif, le samedi 28 on était en manif, et on a continué jusqu'au dernier samedi 11 là, on était en manif tous les samedis matin à Mantes. Donc on a du mal à se mettre en lien entre les camarades des différents secteurs, mais en même temps, voilà, on arrive à poser des manifs, à foutre un peu le zbeul dans la ville et à faire des trucs. Donc,
Et la réception vis-à-vis des gens sur le marché ?
On n'a pas les mêmes gens à chacune des manifs qui participent à la marche. On n'a pas les mêmes gens, donc ça tourne pas mal. Et les gens sur le marché, ils prennent en photo, ils prennent le tract, ils sourient, ils disent qu'ils sont d'accord. Mais, mais voilà, ouais, ils ne rejoignent pas.
Ouais, ils font leur marché, donc ils ne peuvent pas tout faire non plus, quoi.
J'imagine, bah ouais, c'est clair.
Ok. Bah écoute, merci quand même d'avoir terminé sur un point positif.
Ouais. De rien.
Et malheureusement, je pense que c'est aussi super important de publiciser toutes les actions qui ont lieu de ci, de là, dans la France entière, parce que il y a une absence de communication et de publicité sur ce qui se passe, qui fait que chacun et chacune pense que le mouvement à l'échelon national, c'est que quand les syndicats ils l'ont dit. Non, il se passe plein de choses partout, et malheureusement pour le moment ça se met pas véritablement en connexion, mais comme l'a dit Denis, il faut bien que ça prenne quelque part. Et puis comme le dit notre journal préféré, quitte à être une goutte d'eau, autant être celle qui fasse déborder le vase. Hein,
c'est ça. Il cale la pub. Bien joué.
Oui, toujours. Écoute, bon courage Sylvain, on espère te revoir pour que tu nous racontes des assemblées générales dithyrambiques et des jours de grève à n'en plus finir.
Inch'Allah, comme on dit à Mantes-la-Jolie.
Ça marche. À bientôt. Salut Sylvain.
Salut.
Nous reste quelques minutes.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette,
laissant les assiettes des autres vides. Bon, commençant par la dépière, c'est pas forcément le.
Disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Aucun de vous ne pourra dire le contraire. Notre histoire est dans le mur. Je ne serai rien sans le secours populaire. C'est sûr, à terre comme d'habitude. Venu végère l'amertume des prolétaires exclus. Ici l'espoir s'appelle PMU. Issu des pauvres, ma rancœur est légitime. Je suis ce bourgeois, ce que les noirs sont aux skins. Aussi sincère que les paroles d'un alcoolique. J'ai évacué mon fardeau en remplissant des verres. Oublie l'amour, y'a pas de serrure à cette porte. L'argent ne fait pas le bonheur de porc, les clodos se révoltent. Comme le pouvoir d'achat, ma race en chute libre. Si la faim fait des déterminés, je chante encore le ventre vide. De force, ils maintiennent nos têtes sous l'eau. Leur poche déporte, on s'enlise les minima sociaux. Prolo, bien sûr, nos portes sont closes. Les restaurants du cœur sont le paradis des pauvres. De la France, j'en suis la face cachée. Résident entassé dans d'immenses têtes. Sans argent, la femme est noyée dans les têtes. Constamment ignorée, même si on m'en dit de l'aide. Juste qu'ils appellent un déchet à qui on lance des miettes. Inexistant, méprisé. Blanc, arabe ou nègre, évidemment le décès. C'est ce qu'ils nous souhaitent, ils devraient s'en inquiéter. Prolétaire, marche ou crève.
Prolétarien, débat des soupçons. Prolétarien, c'est ce que nous sommes. Prolétarien, rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétarien, des bras faits pour nom. Prolétarien, c'est ce que nous sommes. Prolétarien, rejeté par le reste du monde. On m'a appris à se relever seul. Bêtement, ce monde est trop inquiétant. Les richesses dans les caisses de la France, c'est l'argent des ouvriers dans le surentêtement. Je suis un prolétaire avec le sens de l'acharnement. Aussi vrai que mes semblables plus le désespoir. Chez nous la réussite c'est être smicard. Si l'argent nous fuit, le ciel lui n'est jamais en retard. La misère c'est le fric des politicards. Tricard car français de souche brûlée. Mise à l'écart, chien de la caste. De la caste des ouvriers. Mon quotidien en carence. Je viens du Havre, même la mer fait la manche. Prolétariat, pauvreté, rien. Pour l'état, y'a l'élite, elle est pas point. Aussi des conseillers que des chiottes publics. I'm prolétaire, donc panique.
Prolétarien, les rats des soupçons. Prolétarien, c'est ce que nous sommes. Prolétarien, rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétarien, des bras faits pour nom. Prolétarien, c'est ce que nous sommes. Prolétariat, c'est pas le reste du monde. On m'a appris à se rendre. Les conseils du monde m'aident. RMI, RSA, APL, CNU, CAF, ANTE, ABIF, SLNP, ALCR, CGT, SDF, SOS, en feu détresse. Je mène le même combat qu'Henri Grouès.
Et qui a part comme colocataire, ma race est celle d'en bas qui dans les galères se moque. Reste par terre, crois-moi, frère, pas de fraîche, pas droit. Leur salaire fait notre poids. J'étais précaire bien avant de faire du peuple. Race n'est pas des rois, terre, mais bien nos HLM, APL comme partenaire. Notre droit à la terre, aucun remède. Prolétaire ou indigène, habitué des dettes. L'argent n'a pas d'odeur, mère, mes mains elles sentent la merde. Même le ventre à terre, je resterai des terres. Venu faire des inégalités, ma guerre. Donne-moi un pic, je dynamique leur gratin. Donne-moi une arme, je te fais de l'art contemporain. Le macadam est dans ma peau. Mes blessures le confirment, n'est pauvre. J'suis ghetto, puis l'époque d'Alpha Blondie qui à l'écran. A des excuses solides, la fin justifie le braco. Brave con bandit.
Prolétarien, y'a pas des soupçons. Prolétarien, c'est ce que nous sommes. Prolétarien, rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent. Prolétarien, des braves faits pour nom. Prolétarien, c'est ce que nous sommes. Prolétarien, rejeté par le reste du monde. On m'a appris à se relever seul. Prolétarien, brave.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail.
Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
No other place appropriate at the moment than to do this song, which I still haven't learned yet.